Complètement à l'Ouest, l'émission qui parle de tout sauf d'immobilier. Présentée par Philippe Boyer, directeur de l'innovation chez Covivio.
Eh bien, nous y sommes. 5 années se sont écoulées depuis le premier enregistrement de ce podcast de Complètement à l'Ouest. C'était le 15 septembre 2019. Et au rythme d'une émission par mois, 49 épisodes ont donc été enregistrés, soit près de 1500 heures de programme, portant tout aussi bien sur la philosophie, la médecine, la gastronomie, la science, la nature, le numérique, sans oublier la musique ou encore la géopolitique. Car, et vous le savez, Complètement à l'Ouest, c'est d'abord et avant tout un éclectisme assumé et 1000 fois revendiqué. Lever la tête du guidon, prendre du champ, de la hauteur, bref, créer une parenthèse dans notre tumulte quotidien, telle est la raison d'être de cette émission que l'on peut écouter en balado-diffusion, autrement dit, en podcast, où que l'on soit, quand on le veut. Voilà, je vais y arriver. Et pour l'édition de ce jour, la 50e, nous allons poursuivre, amplifier notre pas de côté en partant loin, très loin à la fois dans le passé et dans le présent, avec une invitée qui a du cran, une invitée qui a parcouru des régions où il ne fait pas bon partir en villégiature, c'est le moins qu'on puisse dire, l'Afghanistan, l'Irak, le Rwanda, la Palestine, la Tchétchénie, le Liban, sans parler de la Birmanie. Une invitée dont le nom vous dira forcément quelque chose et qui a la passion de son métier, car elle en parle avec émotion et intensité. Bref, une invitée aux mille et une vies qui a pris le temps de coucher sur le papier ses multiples univers pour nous faire découvrir les coulisses d'un monde aussi passionnant qu'impitoyable. C'est parti, droit devant, larguons les amarres et cap à l'Ouest, complètement à l'Ouest.
Complètement à l'Ouest, sur Radio Imo et Radio Territoria.
Bonjour Marine Jacquemin.
Et bonjour Philippe.
Et bienvenue au micro de Complètement à l'Ouest. Votre nom fait partie du quotidien de millions de personnes, puisque quiconque a un jour été téléspectateur, notamment de TF1, et en particulier de ses programmes d'information, nous le sommes tous, à commencer par la grand-messe du JT ou de ses magazines de reportage, on vous a forcément vu ou entendu en tant que grand reporter, envoyé spécial sur des théâtres d'opération, comme l'on dit, où vous avez couvert de multiples conflits. Je le disais à l'instant, on vous a vu ou entendu, mais à présent on peut aussi vous lire grâce à la sortie de votre livre « Mes guerres » paru aux éditions de l'Observatoire et qui revient sur la vie qui a été la vôtre en étant sur le terrain dans ces régions plus qu'hostiles, mais aussi en fréquentant plusieurs grands personnages qui ont fait l'histoire. Yasser Arafat, le commandant Massoud en Afghanistan, le juge Falcon en Italie ou plusieurs présidents français dont François Mitterrand, Jacques Chirac, sans oublier des hommes d'affaires Lagacan ou Martin Bouygues. Avant que nous commencions notre échange, pour vous dire qu'à ce même micro, l'une des grandes voix de la radio, Yvan Levaille, que vous citez dans votre livre, était également assis à votre place et j'en profite d'ailleurs pour le saluer très amicalement. Chère Marine Jacquemin, il est de tradition de démarrer cette émission par un court extrait sonore, histoire de se mettre dans l'ambiance et là, j'imagine que ce son ne va pas vous laisser insensible puisque je n'invente rien, vous en parlez au début de votre livre, plus précisément en page 23. On l'écoute.
Le trésor de Rackham le Rouge. Tintin a acheté un modèle réduit de la licorne. À l'intérieur du mât cassé, il a trouvé un parchemin. C'était le plan du trésor d'un pirate. Tintin apprend ainsi qu'un ancêtre du capitaine Haddock, le chevalier de Haddock, avait été attaqué par Rackham le Rouge, un pirate qui avait accumulé un fabuleux trésor.
Voilà, vous l'avez reconnu que tout ceci nous ramène en enfance, que nous ayons 7 ans ou 77 ans. Ce n'est évidemment pas un hasard si j'ai choisi ces quelques secondes, car vous écrivez que Tintin, grand reporter de son état, a forgé votre imaginaire. Et vous l'avez entendu, il mentionne, en l'occurrence ici, c'est les trésors de Rackham le Rouge, mais Tintin, c'est aussi bien sûr l'Amérique, c'est le Tibet, c'est aussi l'Afrique sur les océans et même au Sahara, des théâtres d'opérations que vous connaissez bien, que vous avez bien sûr également fréquenté, des lieux pas toujours réjouissants, comme je le disais tout à l'heure. Marine Jacquemin, ma première question, un peu personnelle, qui fait finalement écho à votre parcours journalistique, qui a été le vôtre pendant plusieurs dizaines d'années, en parcourant tous les continents. Il y a cette citation que l'on attribue prétendument à Confucius, qui disait « Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez plus à travailler un seul jour de votre vie. Est-ce que vous avez eu le sentiment de n'avoir jamais travaillé ?»
Ah, c'est une question pas facile. Moi, je pense qu'on a tous un destin. Et moi, je me suis réveillée un jour, j'avais 30 ans, je voulais avoir des enfants. Je n'étais absolument pas destinée à ce métier. Et le jour où on m'a dit, vous ne pourrez pas être mère, pour une raison inconnue à l'époque, on ne connaissait pas l'endométriose et c'était ma maladie. Et donc, il m'a fallu être très forte. Et c'est vrai que les gens à qui il n'arrive jamais rien ne grandissent pas vite. Et quand ils vous disent quelque chose, et ben vous devez chercher votre vocation d'une certaine manière, d'une autre manière. Et pour moi, mon métier, c'est une vocation, je dirais même, d'avoir pu faire de son métier une passion, c'est formidable. Alors, évidemment, mon métier, d'une certaine manière, fait rêver. Moi, je vois tous les jeunes. Mon livre cartonne beaucoup auprès des jeunes parce que ils ont tous envie d'être grands reporters, d'aventure, etc. Alors, dire que ce n'est pas un métier, quand même, c'est un tout petit peu exagéré de la part de Confucius parce que on travaille 7 jours sur 7, quand on est sur le terrain, moi je travaille 15 heures par jour, je suis une forcenée du travail, j'aime ce que je fais, évidemment c'est ma passion, donc est-ce que entre toutes ces heures passées à travailler et ma passion, est-ce que c'est pas un métier comme les autres, c'est tout ce que je peux dire.
Et si vous n'aviez pas été journaliste, vous seriez destiné vers quels autres métiers,
métier? Je vais vous dire, et ça touche un peu votre podcast, c'est-à-dire moi j'aurais adoré, je pense, être architecte. J'aime bâtir, j'aime construire, j'adore acheter des appartements quand je rentre, quand je dis des appartements, j'en ai acheté deux dans ma vie, de l'architecture, oui, de la vraie architecture, construire quelque chose, ou alors paysagiste, voilà. Et c'est totalement aux antipodes de mon métier, mais c'est peut-être pour ça aussi que j'ai des rêves comme ça secrets dans une autre vie.
J'ai été frappé en lisant votre livre de l'usage très fréquent d'expressions qui traduisent une sorte d'impuissance à agir. Alors vous venez de dire que vous adorez construire et ça se voit, ça se sent. Je vous cite, c'est au début du chapitre 19 intitulé « Retour de front ». Vous rentrez à l'heure de Tchétchénie où la guerre fait rage, accessoirement qui a quand même fait 12 000 morts parmi les troupes russes et 25% de la population tchétchène. Vous écrivez « Comment continuer ? Comment trouver encore un sens à ce que je fais ?» Il y a un autre exemple à la page 201 lorsque vous racontez votre reportage au Kosovo. On est en 99, c'est la guerre dans les Balkans. Vous écrivez encore « Un jour tombe la goutte de trop à Djakovica, j'ai vacillé. » Comment, quand on est grand reporter et qu'on sillonne les pires lieux sur Terre, peut-on continuer à avoir la foi dans son métier et accessoirement la foi en l'homme avec un H majuscule?
Ma réponse est que, curieusement, dans toute cette inhumanité, j'ai trouvé beaucoup d'humanité. C'est vraiment un paradoxe incroyable. C'est... il y avait une chanson, prendre un enfant par la main et l'emmener vers demain.
Yves Duteil.
Bon, il y a de ça dans mes retours. Je ne peux pas abandonner tous ces gens que j'ai rencontrés et qui m'ont guéri d'une certaine manière, parce que moi j'étais vraiment malade. J'aurais pu faire une dépression, me suicider. On vous dit, vous n'allez pas avoir d'enfant. Bon, vous allez voir ceux des autres. Vous rencontrez ces femmes qui sont plus dans la douleur que vous et vous vous attachez à elle. Par exemple, il y en a une qui m'a dit, vous savez, 1% de votre richesse ferait notre bonheur. 1% de votre richesse, c'est-à-dire la richesse du monde. Enfin, bon. Et tous ces gens à qui j'ai tendu mon micro, qui me faisaient des sourires alors qu'ils étaient en train de mourir, je pense au Rwanda, durant ce terrible, terrible massacre.
Ce génocide.
Et je me disais toujours un jour, nous volons leurs images, leur vie à travers nos caméras. On revient certes avec leur vie, on essaie de trouver une façon de faire réagir le monde qui me désole en ce moment, parce que toutes les guerres dont je parle dans mon livre sont revenues.
Bien sûr.
L'Ukraine,
parler du Liban, bien sûr.
L'Ukraine, c'est la Tchétchénie, le Liban avec l'Israël, l'Afghanistan, le retour de ces...
Les talibans, on en parlera largement, bien sûr.
C'est dingue. On se doit d'aller sur le terrain. On se doit d'y aller. C'est pour moi, c'est un mantra, c'est never give up, quoi. Et quel qu'en soit le prix, parce que c'est vrai que certains ont payé largement le prix, mais moi je m'autorise à y retourner et à retourner encore malgré mon âge, parce que je n'ai pas eu d'enfants, je n'ai pas de petits-enfants, donc au pire s'il m'arrivait quelque chose, ce que je n'espère pas parce que j'adore la guerre et j'adore mon métier, mais quand même pas à ce point-là, eh bien voilà, j'aime l'autre.
Ça se sent dans, en tout cas à la lecture de votre ouvrage. Sur le métier de journaliste grand reporter qui est le vôtre, j'ai souvent eu l'impression en vous lisant que vous vous adressiez aux jeunes générations, vous en parliez il y a quelques minutes, pour leur donner les clés de ce métier. Juste une ou deux citations, c'est notamment à la page 237, vous écrivez « Je cherche l'angle décalé, le petit événement ». Vous dites aussi qu'il faut être doté d'une sorte de sixième sens qui permet de pressentir le dénouement à long terme d'une situation donnée. Question toute simple sur le métier de journaliste qui a considérablement changé, qui change beaucoup avec les nouvelles technologies, les drones qui évitent d'envoyer éventuellement un caméraman, le GPS qui permet de localiser à quelques centimètres près tel ou tel élément, sans parler de l'intelligence artificielle et des deepfakes évidemment. Quelles sont les caractéristiques qui ne changeront jamais pour être un bon grand reporter?
Déjà, pour être un bon grand reporter, il faut du courage, il faut de la curiosité des autres, il faut une bonne santé et une bonne résistance. Ça, c'est déjà le point de départ. Alors, c'est vrai que mon métier a beaucoup évolué puisque je le pratiquais il y a 30 ans et je le pratique aujourd'hui. Il y a 30 ans, quand on partait, on avait à peu près 350 kilos de matériel avec nous. C'était très lourd à porter. Ce n'était pas facile pour les diffusions. Il fallait souvent prendre des risques presque plus grands avec sa vie pour aller diffuser à 200 km/h dans un coin où était planté un satellite. On avait des rendez-vous comme ça et qu'on ratait de temps en temps. Alors qu'aujourd'hui, moi je travaille avec mon iPhone sur le terrain. Je peux balancer aujourd'hui, je veux avec un. Alors, concernant l'évolution de la technologie, enfin tout ce que vous dites jusqu'aux fake news, etc. Moi, je fais partie de ces gens qui, bien sûr que c'est une aide extraordinaire pour trier les données, pour etc. Mais moi, je reste persuadée que l'intelligence artificielle ne pourra jamais remplacer notre métier particulier, qui est le métier de reporter de guerre de terrain. Et pourquoi ? Parce que nous sommes les seuls à pouvoir dire la vérité du terrain. Et donc, qui dit la vérité du terrain, dit la liberté, dit la démocratie. Et ça, c'est complètement essentiel. Rien ne pourra arrêter cela, rien ne pourra changer. Donc, nous aurons toujours besoin, cette intelligence artificielle ne peut pas tout faire et ne peut pas rendre les émotions et rendre la vérité d'un terrain.
Il y a un chapitre de votre livre qui s'intitule « Guerre civile au Liban », on en parlait à l'instant, sur le Liban. On est en 85, à Beyrouth, qui vous a changé à jamais. Oui. En particulier, évidemment, lorsque ce char israélien, écrivez-vous, vise et tire. Vous en sortez, mais pas ni le caméraman, ni le preneur de son qui sont avec vous. Et le chapitre qui suit mentionne le voyage réparateur que vous faites en Inde, un voyage catharsique, sur les bords du Gange. Vous écrivez « Ce fleuve rend la mort presque légère ». Comment est-ce qu'on gère sa peur quand on est en permanence au milieu des conflits ?
Alors moi, j'ai la chance d'avoir...
Comment on l'apprivoise aussi ?
Comment on l'apprivoise, oui. Alors, il faut beaucoup de chance. Là, c'est un de mes patrons qui m'avait dit, où j'avais eu un coup de bol terrible, je crois que c'était lors du putsch de Moscou, il y avait un camion qui défonçait les portes de la télévision et brusquement les forces spéciales russes ont tiré et tous mes copains sont morts ou blessés autour de moi, notamment notre caméraman Yvan Skopan, Patrick Bourak avait été blessé. Il faut une partie de chance dans ce métier. D'autre part, comment dire, moi j'ai fait beaucoup de montagnes et les guides d'haute montagne m'ont appris à choisir des routes, les bonnes routes quoi. Il faut pas se tromper de route quand on est. Et moi je dis que la peur est vraiment ma boussole, c'est elle qui m'a toujours guidée.
Mais comment vous l'apprivoisez ?
Ben je l'apprivoise parce que au fur et à mesure du temps, c'est vrai que quand je vois beaucoup de jeunes partir aujourd'hui sans préparation, j'ai peur pour eux. Je ne peux plus regarder la télévision aujourd'hui, c'est drôle. Hein. J'ai un mal fou.
Vous, femme de télévision.
Ouais. Et elle s'apprivoise au fur et à mesure du temps. Et puis, je me suis rendu compte que on ne naît pas monstre, on le devient. Et par exemple, quand je suis face à des jeunes gens qui sont des monstres, hein, les talibans peuvent être des monstres, alors que ce sont des gamins qui sont orphelins, qui ont été éduqués dans les madrassas, les écoles coraniques, on leur a mis dans leur tête qu'il fallait paver les routes du monde avec avec l'islam. Quand je suis face à eux avec le sourire, ça ne réussit pas à tout le monde, hein, je vous le dis tout de suite. Malheureusement, beaucoup de mes amis sont morts. Mais ils nous prennent pour leur mère, pour leur sœur, pour il faut tendre la main au diable. C'est aussi ça un peu ma manière d'aborder la peur. Mais j'ai toujours eu peur. Et la peur m'a probablement tenue en vie parce que j'ai essayé de ne jamais faire le pas de trop, mais sans même le faire. Regardez Patrick Bourra, il a été buté par un char. Mary Colvin, ma meilleure amie de reportage, elle a été visée. C'était un QG de journalistes, ils ont été visés.
Quel pays ?
En partie elle, en Syrie. En Syrie, c'est ma meilleure amie. Et j'ai perdu beaucoup d'amis dans ces guerres. Certains disent un bon journaliste, c'est celui qui reste en vie. Non, parce que j'ai vu des très très bons journalistes mourir à mes côtés, malheureusement. Et la peur, oui, tout le temps.
Allez, haut les cœurs, on va marquer une petite pause musicale pour se renjouer un petit peu, pour repartir avec le sourire. Avec le morceau que vous avez choisi, Marine Jacquemin, il s'agit de Zazie, ça commence. Alors comme toujours avec Zazie, c'est vrai que c'est une claque qu'on reçoit quand on écoute cette chanteuse, cette fille, tellement sa musique et ses paroles sont crues et directes.
Et il y a une sorte de... je retrouve dans sa chanson, et ça commence et ça recommence. Ouais. En fait, bon, on n'a pas les mêmes vies, mais il y a quelque chose.
Ouais. Allez, ça va nous rebooster en tout cas. Ouais, allez, on écoute Zazie.
Et ça commence.
Comment
complètement à l'ouest sur Radio Imo et Radio Territoria.
Allez, on est de retour avec Marine Jacquemin qui est journaliste grand reporter et qui publie Mégère avec ce sous-titre « Confidence d'une grande reporter » et c'est paru aux éditions de l'Observatoire. Au-delà du récit détaillé de vos reportages qu'on découvre dans ce livre et des conditions dans lesquelles vous étiez sur le terrain, on le disait tout à l'heure en introduction, ce livre est aussi un récit très personnel. Vous indiquez au lecteur que l'écriture de ce livre a été difficile pour vous puisque vous avez fait face à de nombreux souvenirs douloureux. On vient de les évoquer à l'instant avec le décès de certains de vos collègues, mais aussi vos propres combats, le fait d'être une femme, qui plus est blonde, pardon pour cette... incise, voilà, exactement, il faut aussi en parler, qui plus est dans un monde machiste, peut-être un peu moins maintenant, pour une interrogation, le harcèlement moral aussi de votre chef, dont vous avez été victime à la rédaction de TF1 jusqu'à votre départ brutal de cette chaîne, que vous décrivez également dans votre livre. Et la question que je me pose, que je vous pose à la combattante que vous êtes, et en tout cas qu'on découvre en lisant ce livre, pourquoi avoir eu envie d'écrire ce livre maintenant? Et peut-être un peu plus intime, quelles ont été vos recettes pour passer outre ces guerres intimes que vous racontez, et singulièrement la maladie ?
Écoutez, j'avais pas du tout envie de d'écrire ce livre. C'est une prof de français qui un jour me contacte et me dit, elle habite à Cologne, elle est prof de français à Cologne, elle me dit, écoutez, j'aimerais beaucoup que vous veniez parler à mes élèves. Ils ont besoin de gens comme vous parce que c'est à l'aune du passé qu'on peut comprendre peut-être mieux les guerres d'aujourd'hui. Et moi, je peux pas leur raconter, c'est à vous de le faire. Et j'étais pas très emballée. Arrive le Covid, elle exhume 2000 de mes reportages, elle revient 3 ans plus tard avec ça.
Une acharnée.
C'est une acharnée, une déterminée. Elle m'a dit maintenant, elle a mis ça sur ma table et elle m'a dit maintenant, vous allez l'écrire ce livre ou pas ? Là-dessus, maman...
Vous étiez au pied du mur.
Totalement, mais ma mère m'a mise au pied du mur parce que ma mère meurt et elle me laisse un carton avec plein de photos que j'avais jetées, de lettres de téléspectateurs, de coupures de journaux. Elle me dit, avec ton père, on t'a vu partir sans arrêt, j'étais enfant unique, sans savoir si t'allais revenir. Est-ce que tu vas nous l'écrire un jour, ce livre, de là où on est ? On le lira. Que ma maman m'écrive ça, ça m'a vraiment... La conjonction des deux rencontres entre cette prof et le carton que me laisse ma mère fait que j'écris. Mais alors là, rembobiner le film en arrière, c'était vraiment... je ne pensais pas à ce point-là que ça allait me... J'ai fait des vertiges, etc., etc. Parce que, vous savez... On a ce que nous, les reporters de guerre, de terrain, on a ce qu'on appelle, comme les soldats ou comme les humanitaires, des blessures invisibles. Quand j'ai eu ces vertiges, je suis allée voir un médecin qui m'a dit « Est-ce que vous avez eu un choc récemment ?» ou quelque chose comme ça. C'était pas du tout les cristaux dans l'œil. J'ai dit « J'écris un livre... Ah ben il me dit « Voilà, vous êtes en train de faire une dépression nerveuse interne. Vous n'en êtes pas consciente. » Mais ça s'appelle les blessures invisibles. Et ces blessures, c'est terrible. Par exemple, j'avais rencontré au Rwanda un grand général, le général Dallaire, qui était, je crois, le général envoyé par l'ONU. Quelques années plus tard, cet homme a failli se suicider à plusieurs reprises. On l'a retrouvé nu dans un port totalement
déboussolé.
Maintenant, il est redevenu normal, mais il a eu ces blessures invisibles qui l'ont complètement détruit. Et moi, en écrivant ce livre, finalement, j'étais un peu dans un état second et je me suis vite calmée parce que je suis d'un naturel extrêmement positif, contrairement à ce que je raconte. et ce sont ces gens-là qui nous ont, qui m'ont tout donné, quoi. Je leur tendais mon micro, ils me souriaient, ils allaient mourir. Comment puis-je rentrer dans un pays comme la France, qui est réellement un paradis, contrairement à ce que certains pensent? Bien sûr, on a tous nos douleurs, on a tous nos quotidiens, on a tous des problèmes. Mais je trouve que quand même certains exagèrent, parce que on est loin d'être en enfer, comme certains le disent. On est loin d'être dans une dictature, comme certains le disent. Qu'ils aillent là où nous sommes allés, et ensuite ils reviendront heureux de rentrer chez eux, croyez-moi.
On va parler dans un instant de l'Afghanistan et de l'hôpital à Kaboul que vous avez développé en lien avec d'autres personnes, et je pense notamment à Muriel Robin, évidemment, que vous dites. Mais précédemment à cela, je veux juste qu'on revienne un instant sur un des chapitres, là encore, de votre livre, s'agissant du harcèlement. On parle beaucoup de harcèlement sexuel, et les tabous tombent, et c'est bien heureux, et c'est tant mieux. Mais là, en l'occurrence, il s'agit de harcèlement moral. Comme on a eu un balance tempore, allez-vous à présent utiliser votre énergie pour faire de ce fléau, le harcèlement moral, une grande cause nationale avec quelque chose qui pourrait être balance ton harceleur?
Non, alors moi je balance personne en l'occurrence. Mon harceleur, c'est mon harceleur, il s'est reconnu, vous inquiétez pas. En revanche, je ne sais même pas s'il a senti, parce que c'était une autre époque, les hommes avaient une espèce de... Bon. Mais c'est en même temps... le harcèlement moral est quelque chose de très 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 différent. Le harcèlement moral peut être fait par une femme ou un homme sur un homme ou une femme. Il ne s'agit pas de sexe.
Bien sûr.
Il s'agit d'une marque de pouvoir.
D'un poison. D'un poison.
C'est un poison qui s'insinue dans vos veines. Et au départ, ce type était très sympa avec moi à un moment, et puis je lui ai manqué de respect. Et il en a pris ombrage. Et de l'amitié, l'amitié est passée à la haine. Et je ne sais même pas s'il s'en est rendu compte. Bref, il m'a tué à petit feu. Pourquoi? Parce que je rentrais de pas mal de guerres. J'ai couvert 40 conflits dans ma vie. Et j'étais faible à ce moment-là, très faible, très fatiguée, et au point que j'ai failli en mourir. Et j'ai développé un cancer du côlon, ça ne s'invente pas, c'est le deuxième cerveau, et j'ai failli vraiment mourir. Donc je suis partie, mes patrons me disaient, il n'en est pas question, mais qu'est-ce que c'est? C'est pas ce connard qui va... Mais non, parce que les gens nous regardent, nous, les reporters de guerre, un peu comme des héroïnes, ou chose qu'on n'est rien de tout ça. En fait, la guerre, c'est un théâtre à ciel ouvert, où des gens normaux sont les acteurs. Et nous, les reporters, ben, on est acteurs en parallèle d'eux, quoi. On n'a rien d'héroïque. On a choisi d'y aller, nous, les reporters. Les gens qui... Les héros du quotidien sont les gens qui luttent contre le cancer et les gens qui subissent la guerre.
Bien sûr.
C'est ça, les vrais héros.
Bien sûr.
Nous, c'est un choix.
On va ouvrir une page consacrée à l'Afghanistan, qui est aussi une grosse partie de votre
ouvrage. C'est un tiers de mon bouquin.
Voilà, de votre ouvrage, évidemment. Mais je voudrais à présent aussi qu'on puisse vous écouter dans un des reportages qui ont été les vôtres, dans, en l'occurrence dans l'émission Profession Reporter que vous avez lancée. Nous sommes en 1996 et c'est le tout premier long reportage que vous faites pour cette émission qui passe à l'époque sur TF1. Et vous et votre équipe, vous rendez en Afghanistan via le Pakistan, Peshawar. J'ai d'ailleurs regardé.
Vous avez bien lu,
voilà, et non seulement j'ai lu, mais j'ai regardé également le reportage sur YouTube qu'on en trouve.
Ah oui, plus d'un million de vues.
Juste peut-être mettre un extrait de ce reportage.
C'est de Peshawar au Pakistan, cité frontière avec l'Afghanistan, que nous allons tenter de rejoindre Kaboul, la capitale afghane, capitale de tous les interdits. Ici, à Peshawar, se sont multipliées les grandes écoles coraniques. Elles enseignent un islam pur et dur que pratiquent les nouveaux maîtres des trois quarts de l'Afghanistan, les talibans.
Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Dans les faubourgs de Peshawar, la mosquée et l'école coranique d'Akania.
Alors, donc, il y a dans votre livre ce chapitre qui s'appelle Voile noire sur l'Afghanistan. Juste pour qu'on puisse essayer de vivre avec vous ce que vous avez traversé et vécu, comment, racontez-nous les circonstances de ce premier reportage, en l'occurrence un reportage au long cours en Afghanistan.
Il venait d'arriver juste, j'étais là quand ils sont entrés dans Kaboul. Et je comprenais pas, c'était la première fois que j'entendais parler d'abord des talibans. Et puis, je comprenais pas ces jeunes gens, espèce de folie. Après, je les ai rencontrés durant ce reportage. J'ai même passé une nuit avec une dizaine de jeunes gens auxquels j'ai fait découvrir les rues de Paris, la danse, le chant, enfin tout ce qui leur est interdit, jusqu'au chant des oiseaux, hein, c'est interdit. Ils sont partis le matin, ils sont jamais revenus, on les a attendus pendant 48 heures. C'est de la chair à canon. Ce reportage, oui, c'était la première fois. Il a eu beaucoup, beaucoup de succès sur TF1. On était à 32% de part de marché.
On le retrouve aujourd'hui sur YouTube.
Et je suis étonnée que 20 ans, plus de 20 20 ans plus tard, on est à plus d'un million de vues en l'espace de 2 mois. Donc c'est un et c'est exactement la même chose qui se passe aujourd'hui en pire, parce que avant ils n'avaient pas d'ordinateur, ils n'avaient pas. Moi j'avais été condamnée à mort pour ce reportage et j'ai pu y retourner. Enfin sans que aujourd'hui c'est très différent. Aujourd'hui les jeunes talibans, si je puis dire, sont des gens extrêmement éduqués, mais qui ont exactement la même folie, la même hargne sur les femmes. Les femmes n'ont le droit de rien, elles n'ont même pas le droit de parler entre elles. Quand elles récitent le Coran, elles doivent le réciter à voix basse. Elles ne peuvent plus rien faire. Moi, j'ai des appels sans cesse à partir du moment où elles peuvent joindre, parce qu'il y a plus de... Elles ont vécu 20 ans. Les petites filles qui sont nées il y a 20 ans, quand les forces spéciales, les forces internationales sont arrivées à Kaboul, ont fait des études pendant 20 ans. Les femmes, comme les hommes, comme les enfants, se sentaient comme nous, quoi, presque. Enfin, il y avait quand même quelques attentats, mais et du jour au lendemain, on les lâche comme ça. On les lâche pourquoi ? Parce qu'il y a tous ces clans, enfin bref, c'est un pays extrêmement difficile qui ne redeviendra jamais normal. Comment aider ces femmes ? Nous sommes beaucoup de femmes dans le monde à essayer de les en sortir, mais c'est pas facile.
Là, on était en 1996, on fait un petit saut dans le temps en 2001. Ouais. Vous racontez qu'un jour de novembre 2001, justement, suite à la diffusion d'un de vos reportages sur le travail forcé des enfants en Afghanistan, la comédienne Muriel Robin vous appelle et vous dit « j'ai été bouleversée, révoltée par ce que j'ai vu, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Et qu'est-ce que vous lui répondez et bien sûr, comment ce projet d'hôpital à Kaboul, dont on va maintenant parler, demeure et est lancé.
C'est une étoile qui m'est tombée sur la tête, Muriel Robin. Moi, je la connaissais pas. Elle arrive, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, je lui dis un hôpital, parce que j'avais perdu l'enfant qui a sauté sur une mine, un enfant que je voulais adopter. Mon traducteur, qui était chirurgien, m'avait emmené dans un hôpital construit par les Hospices de Lyon en me disant, on va le reconstruire ensemble. Il était en ruine. Il a été pendu par les talibans. Donc, pour la mémoire de ces deux personnes qui ont beaucoup compté dans ma vie, un hôpital. Alors, à l'époque, on n'avait pas... Donc, Muriel était là, on a fait vraiment toutes les télés possibles, imaginables, on a récolté déjà 2 millions, et j'appelle mon patron, Bouygues, et je lui dis, bon...
Martin Bouygues ?
Oui, je voudrais construire un hôpital à Kaboul. Il me dit, un hôpital à Kaboul, Marine ? Vous savez, oui, bon. Il me dit, écoutez, je vais vous envoyer un peu d'espoir, et une heure après, j'ai une enveloppe avec 1 million d'euros. Je le rappelle en lui disant, vous n'êtes pas trompé de zéro. Il me dit, non, j'ai très confiance en vous, revenez dans un an. 6 mois plus tard, on a commencé à construire l'hôpital. Muriel est restée un an avec moi, elle est toujours notre ange gardien de cet hôpital. Madame Chirac après, parce que les Français ne nous ont pas vraiment aidés, mais Madame Chirac et son aura a permis de contacter les grands riches de notre
bailleurs de fonds
français, tous ces gens dont on parle tout le temps et qui sont extrêmement généreux, etc., etc. J'ai rencontré Madame Chirac, toujours m'avait dit, Marine, faites attention, vous êtes emballée de construire un hôpital, mais moi j'ai construit un hôpital à Ouagadougou qui a fermé un an plus tard, ne faites pas comme moi, ayez surtout un protecteur. Et j'ai rencontré par hasard la princesse Zahra Aga Khan. Donc je me suis associée d'abord avec la chaîne de l'espoir. J'ai choisi la chaîne de l'espoir parce qu'ils opéraient du cœur et les cœurs, etc., et qu'on opérait sous éther à cette époque en Afghanistan. Et ensuite la fondation Aga Khan, parce que pour eux, ils sont dans cette région et ils cherchaient à rentrer en Afghanistan. Donc c'est eux qui dirigent aujourd'hui.
Aujourd'hui justement, l'hôpital fonctionne encore.
L'hôpital fonctionne encore.
20 ans après.
La chaîne de l'espoir, malheureusement, ils essaient. Tous ces médecins qui, au péril de leur vie, sont allés là-bas depuis 20 ans, ont sauvé des centaines de milliers d'enfants. Aujourd'hui, c'est très compliqué parce que les talibans sont rentrés dans l'hôpital et voulaient le prendre en charge. Il y avait là une jeune femme, Sonia Cotin, qui dirigeait l'hôpital, et c'était il y a quelques mois, et qui leur a fait comprendre que ils seraient incapables. On devra fermer l'hôpital si jamais ils en prennent le contrôle. Et la deuxième chose, c'est que les femmes sont essentielles. Alors ils ont accepté jusqu'à présent qu'il y a une vingtaine de femmes qui travaillent dans l'hôpital sur 1000 personnes. Et qui sont des femmes essentielles, des sages-femmes, des chirurgiennes, des médecins et des infirmières. Et Ça tient sur un grain de sable, mais jusqu'à présent, ils ne se sont pas emparés de l'hôpital et malheureusement, la chaîne de l'espoir a du mal à y aller parce que, comme les journalistes, ils n'ont pas de visa. Mais never give up, comme on dit dans la vie, il n'est pas question d'abandonner. Hein.
Vous songez retourner en Afghanistan ?
Bien sûr, ouais. Bien sûr. Moi, je ne cherche que ça en ce moment pour justement continuer ce pays des interdits que j'ai fait. Alors aujourd'hui, c'est un tout petit peu plus dangereux pour le faire, je ne sais pas. Mais jusqu'à présent, ils ne se sont jamais attaqués aux femmes étrangères. Il faut quand même savoir que ce sont les femmes afghanes qui risquent leur peau, pas nous. Hein. On n'est pas, une fois de plus, des héroïnes. Donc j'espère bien qu'un jour ou l'autre, on pourra leur faire entendre raison. J'en doute, mais comme je suis extrêmement positive, je ne renonce jamais. On verra. Voilà.
Merci Marine Rickman, j'aurai encore des dizaines de questions à vous poser, mais je suis aussi en train de regarder le temps qui défile et il défile très vite. Merci en tout cas d'avoir accepté de venir à ce micro, en plus pour cette 50e émission, j'en suis très honoré. Merci beaucoup, merci à vous. C'était un plaisir et un véritable honneur. Je rappelle que vous avez donc écrit Méguerre, c'est publié aux éditions de l'Observatoire avec ce sous-titre Confidence d'une grande reporter. C'est un livre de voyage, c'est un livre de témoignage, on l'a compris, à la fois très profond et très bouleversant.
C'est un livre où on rit aussi. Hein.
Et où on rigole, exactement. Il y a des scènes de guerre, beaucoup, mais il y a des scènes très rigolotes également. Et j'incite tous les auditeurs, évidemment, à lire rapidement ce livre. Complètement à l'Ouest, poursuit sa route et reviendra le mois prochain pour la 51e émission. Et nous parlerons de tout autre chose, puisque nous parlerons de l'art oratoire avec un spécialiste de cette question. On se rappelle l'expression de Nicolas Boileau, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Et les mots pour le dire arrivent aisément. Nous parlerons donc d'art oratoire. Et puis évidemment, je n'oublie pas de remercier toutes les personnes qui sont en régie, qui m'ont également aidé à préparer cette émission, qu'ils se nomment Jason, Théo et toute l'équipe. Merci beaucoup au titre de ces 50 émissions de m'assister avec autant de gentillesse. Et là encore, je rappelle une dernière fois aussi que cet épisode du jour ainsi que les 49e autres peuvent être réécoutés en podcast sur les principaux players en ligne, qu'ils se nomment Spotify, Apple Podcast, Google Podcast et beaucoup d'autres. Voilà, vous savez tout, chers auditeurs et auditrices, il ne reste plus qu'à vous préciser qu'il est important de garder le cap, surtout le cap à l'Ouest, complètement à l'Ouest.